et ça dure pendant 20 pages. Et pour lui, ce sont des preuves. Il termine sa démonstration en disant qu'il vient de... En disant qu'il vient réellement de prouver son truc, quoi. Et donc, il arrivait à une conclusion complètement irréfutable. Alors, ces aspects-là m'intéressent de plus en plus parce qu'on se rend compte que la théorie de Gobineau fonctionne vraiment comme celle d'un fou littéraire. C'est-à-dire qu'il a un système... il a inventé une machine théorique qui est complètement délirante et qui l'aide à produire de la littérature dans des quantités faramineuses. Le meilleur exemple que j'ai pas vraiment creusé parce que ce serait une montagne, quoi. C'est une époque, il imaginait qu'il avait réussi à déchiffrer les écritures cunéiformes, donc les écritures de la Mésopotamie ancienne, qui étaient en cours d'étude à cette époque-là. Manque de peau, elles ont été déchiffrées d'une façon complètement irréfutable et fonctionnelle juste au moment où lui commençait à y travailler. Mais les chercheurs avaient découvert que les écritures cunéiformes étaient principalement des documents administratifs, des livres de comptes, enfin quelque chose de très prosaïque, ce qui pour lui est complètement typique d'un raisonnement race jaune, quoi. Donc complètement aberrant, puisqu'évidemment les écritures cunéiformes venaient de Mésopotamie, donc de populations indo-européennes, ça ne peut pas être des factures. Et donc il a inventé un système de lecture qui en fait fonctionnait dans tous les sens. C'est-à-dire que quel que soit le texte qu'il lisait, on pouvait le lire de gauche à droite, de bas en haut, en diagonale et dans tous les sens. Et ça fait trois volumes de 500 pages chacun, quoi. Et donc à chaque fois qu'il trouve une idée comme ça un peu délirante, c'est réellement comme un Jean-Pierre Brisset avec ses étymologies fabuleuses, etc. Et c'est quelque chose sur lequel il peut travailler de façon obstinée pendant 10, 15, 20 ans pour nourrir sa névrose, mais enfin ça donne des résultats qui parfois sont vraiment très très étonnants. Bon. Donc la question évidemment que je me suis posée, c'est comment est-ce que quelqu'un d'aussi fin et intelligent peut écrire autant d'imbécilité, puisque c'est quand même comme ça que ça se présente. Il y a une part d'explication psychologique qui est évidemment, enfin non pas évidemment d'ailleurs, mais une de celles qui m'intéresse le plus. Finalement, la névrose fondamentale de Gobineau, c'est sans doute pas sa théorie raciale, c'est sa généalogie. Il vient d'une famille de petite noblesse de robe, tombée immédiatement en déconfiture au moment de la Révolution française. Il arrive à Paris à 19 ans, il faut qu'il gagne sa croûte, il habite dans une chambre de bonne chez son oncle qui lui trouve un boulot, aujourd'hui on trouverait un boulot de stagiaire pas payé à l'autre bout de Paris dans une compagnie de gaz. Il grandit dans le mythe de cette famille qui a été quelque chose autrefois et il ne comprend pas pourquoi il doit se taper tous les matins une heure à pied parce qu'il ne peut même pas se payer le fiacre pour aller faire un boulot merdique. Et donc il a vraiment un sentiment de déclassement qui est extrêmement profond. Et qui le pousse immédiatement, par contre-coup, à faire des études généalogiques. Et dès qu'il arrive à Paris, c'est assez étonnant, mais donc ce type de 19 ans débarque à Paris, la première chose qu'il va faire, c'est de passer absolument tout son temps dans les bibliothèques, à la recherche de manuscrits, de chroniques, d'actes d'état civil, pour en savoir plus sur ses origines. Quand il commence à gagner sa vie, comme chef de cabinet de Tocqueville au ministère des Affaires étrangères, et ensuite comme diplomate, il commence immédiatement à embaucher des chercheurs dans toute la France, avec son salaire relativement réduit, qui vont pour lui recopier tous les documents qu'ils arrivent à trouver absolument partout, dans lesquels ils trouvent le nom Gobineau, ce qui est un nom, semble-t-il, relativement répandu dans le Bordelais. Ils n'arrivent pas très loin, ils arrivent à peu près au XVIe siècle, ce qui pour lui est complètement insuffisant, puisque c'est quand même que deux siècles avant lui. Un jour, un de ces types tombe sur un document un peu plus ancien faisant mention d'un personnage qui s'appelle Gobineau de Gournay. Et Gobineau se dit « C'est bon, en fait, le vrai nom de ma famille, c'est Gournay. » Et Gournay, c'est une vraie famille aristocratique, mais de Normandie, donc sans aucun rapport. Et donc, il commence à chercher les Gournay, et tout ça dure 40 ans, 45 ans. J'ai farfouillé les archives généalogiques de Gobineau, c'est des mètres cubes de documents. Aujourd'hui, quand on trouve chez des marchands d'autographes à Paris des lettres de Gobineau, c'est toujours des lettres à des chercheurs, les remerciant de tels détails qu'ils lui ont fournis sur tel ancêtre au XIIIe siècle. Et la conclusion de sa généalogie, c'est qu'en fait, il descend du dieu Odin. par un viking qui écumait la côte normande et aquitaine au 9e siècle. Donc il descend d'Audin au viking, du viking à la famille Gournay, des Gournay au Gobineau, avec tout un tas de raisonnements du genre de ce dont je viens de vous donner l'exemple, beaucoup sur les blasons. Dès qu'il voit le moindre point commun entre deux blasons, ça y est, c'est bon, c'est pour lui, c'est sa famille, etc. Avec ses dernières forces, il a travaillé à l'édition donc, de sa généalogie. Ça fait 500 pages, il a dû en retrancher 400, je crois, sous la pression de l'éditeur, qui même, à compte d'auteur, refusait d'en imprimer plus. Et immédiatement, il a commencé à organiser la deuxième édition. Enfin, bon, c'est vraiment sa grande... sa grande névrose. Et le rapport avec la théorie raciale, c'est la mésalliance. Parce que Gobineau a un problème qui est sa mère. Et toute sa généalogie s'occupe exclusivement de sa lignée paternelle. Sa mère est citée à la fin, c'est-à-dire que c'est un récit chronologique, et à la fin, il y a son père qui épouse une dame qui s'appelle Madeleine de Jersey, qui a trois enfants, dont Arthur, qui est notre héros. Parce que la mère de Gobineau est une... elle a beaucoup de défauts, enfin beaucoup de défauts, c'est un personnage haut en couleur. Quand Gobineau est petit, son père est militaire en Espagne, et sa mère, qui a un peu vécu à la cour de Napoléon, qui a l'habitude d'avoir un certain train de vie, que ne lui fournit pas le petit militaire qui est le père de Gobineau. Et en fait, bon, non seulement, évidemment, elle prend plein d'amants, et puis elle fait au moins une gosse adultère. Quand le père de Gobineau l'apprend, il la fait enfermer d'ailleurs en maison de santé, dont elle s'échappe enceinte de 6 mois avec une corde. Mais je sais pas qu'elle est féminin d'escroc. C'est un escroc, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, pour se faire payer des sommes à distance, on pouvait rédiger des lettres de change, hein, donc il suffisait d'écrire, voilà, je reconnais devoir telle somme, etc., et puis vous pouviez vous faire payer sur la confiance des sommes en espèces un peu partout. Et donc elle fait des fausses lettres de change, parfois pour des sommes énormes. Elle débarque dans des villes de province en se prétendant duchesse ou marquise de Bidule, elle dit mais qu'elle connaît très bien le roi de machin, le duc de truc. Elle a beaucoup de bagou parce que ça marche à tous les coups. Elle arrive à embobiner une ville entière. La ville entière lui fait des ponts d'or. Et puis quand elle est prête d'être découverte, elle se barre et recommence 200 km plus loin. Et donc Gobineau petit vit avec sa mère comme ça, qui le traîne d'une ville à l'autre en devant fuir en catimini, un jour habitant dans un palais, un jour dormant dans un fossé. À un moment donné, elle est menacée de procès par le tribunal d'Évreux parce qu'elle a vraiment ruiné la ville. Elle quitte la France parce qu'elle sent que cette fois c'est la bonne. Elle est condamnée à 6 ou 8 ans de prison, je ne sais plus. Donc elle fuit en Suisse. Et elle y reste, je crois. Alors en Suisse, c'était un moment donné où il y a eu des réfugiés polonais qui sont arrivés par la France. Donc elle a commencé à s'occuper des réfugiés polonais. Elle est partie en Pologne avec un autre amant. Elle a fini par revenir en France. Là, un tribunal lui est retombé dessus et elle s'est fait emprisonner. Et donc Gobineau a en plus le boulet dans sa vie, quand il commence jeune à Paris, d'avoir sa mère qui est en tôle pour escroquerie, ce qui la fout vraiment mal. Surtout qu'elle a été condamnée plusieurs fois de suite, et puis c'est public, quoi. C'est-à-dire qu'il y a dans le journal, on parle de Madame de Gobineau qui vient de se prendre 6 ans de prison pour escroquerie, etc. Et Gobineau en a une honte abominable, évidemment. Et développe sa théorie, et puis il le dit lui-même au fond, pour essayer de rendre sa vie supportable, en fait. Parce que dans sa théorie raciale, d'une certaine manière, les hommes apportent toujours les bonnes choses dans un mélange de population, et puis les femmes apportent toujours le mauvais. La race noire, qui est sa race inférieure, est une race féminine. Enfin, il y a vraiment une manière comme ça de justifier par tout ce qu'il a pu trouver d'extérieur, ben tout ce qui dans sa psyché, disons, ne collait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il s'en remet aux théories raciales ? Je vois deux raisons. La première, c'est que c'est à la mode. C'est une époque où dans les bibliographies de la France, il paraît chaque année des centaines de titres, de livres et d'articles sur les théories raciales. C'est le début de la colonisation de l'Afrique. Il y a un intérêt pour... Il y a de nouveau une nécessité de justifier, disons, par la théorie, les exactions que les Européens commencent à commettre. Et bon, je pense que l'autre explication, c'est que ça avait une apparence de scientificité, disons, et que la science, voilà, on a toujours tendance à croire que c'est quelque chose de solide. Il avait besoin d'une explication relevant des sciences naturelles, relevant de la matière, relevant de quelque chose d'irréfutable, disons. L'autre explication, c'est... Alors ça, c'est un sujet que je développe un peu plus, même si je pense que je ne vous dirai pas de choses à ce sujet. C'est l'idée qu'on se fait à cette époque-là en France et principalement en Europe de la race aryenne et principalement de la race germanique. Depuis le XVIIIe siècle, on se retrouve dans un regain énorme des lectures de la Germanique Tacite. La Germanique Tacite, c'est un traité d'une trentaine de pages qui est la seule source finalement dont on dispose sur les Germains sur les peuples germaniques de l'Antiquité, et dans lesquels Tacite, donc on est aux alentours du 1er siècle, dans lesquels Tacite insiste sur le fait que les Germains sont un peuple à part. Ce sont un peuple c'est une race pure, ils ne sont pas mélangés. Et les Germains sont un peuple libre, parce qu'ils sont ils viennent du Nord, et comme on sait, le grand froid rend les gens plus robustes et plus indépendants, donc ils sont individualistes. Ils sont plus courageux, etc. C'est un texte qui d'un point de vue ethnographique ne voit absolument rien, et qui est vraisemblablement un texte polémique, qui est une manière d'inciter les Romains de son temps à être plus vertueux, en fait, à avoir des mœurs plus simples et à être des bons sauvages. Et Tacite a une postérité énorme, évidemment, surtout en Allemagne, dans la construction du mythe idéologique allemand, la Germanique Tacite, c'est le texte fondateur par excellence. Hein, c'est-à-dire que Hitler a passé la moitié de son mandat à supplier Mussolini de lui envoyer le dernier manuscrit, enfin le manuscrit le plus récent qu'on en ait. Il avait organisé des plans pour le faire kidnapper. Enfin, c'est kidnapper le manuscrit, pas Mussolini. C'est un texte qui a vraiment une importance gigantesque, et qui en France a donné une double postérité.